Je vous l'avais dit, nous allons terminer cet après-midi d'échange sur cet espace Forum Sierra Europa en parlant communication. On a commencé à aborder ce thème avec Jean-François Bandet tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une part importante aujourd'hui de tout commerce. Et nous allons nous poser la question avec nos deux intervenantes de savoir si la communication en boulangerie est quelque chose d'obligatoire aujourd'hui. Quelles sont les contraintes de communiquer en boulangerie ou avec des boulangers? Ce sont des questions que nous allons nous poser. Avec vous, Mariana Rego-Lopez, vous êtes co-dirigeante d'une société dont je n'ai pas noté le nom. Donc, vous êtes obligé de me le dire, s'il vous plaît. Et pardon de ne pas l'avoir noté. Ça a marché.
Graines de sens.
Voilà, graines de sens. Et à côté de vous, Amélia Bell, vous êtes boulangère. Votre boulanger s'appelle Mimi.
Oui, c'est ça.
C'est mignon. C'est Mimi, dans le 11e arrondissement, rue Sedaine.
C'est ça.
Alors, un mot sur vos parcours respectifs pour qu'on vous connaisse un peu mieux. Vous êtes formée toute jeune à la boulangerie ou vous avez choisi plus tard de...
Alors, pas du tout. J'ai commencé ma reconversion professionnelle il y a 4 ans. Et donc, j'ai fait Ferrandi en CAP adulte. Avant ça, je faisais du conseil en finance. Et juste avant mes 30 ans, je me suis dit, c'est mon rêve depuis toujours, je me lance. Et donc, j'ai travaillé dans quelques boulangeries et on a monté le projet il y a presque 2 ans.
Vous êtes contente?
On est super. Enfin, moi, je suis super contente.
Vous êtes seule dans le projet ou vous êtes avec votre...
Non, j'ai mon conjoint aussi.
Voilà. Donc, voilà. Comment il s'appelle? Vous vous appelez comment? Antonin. OK.
Et voilà.
Bon, vous voulez pas venir avec nous, Antonin? Non, parce que si c'est comme vous êtes tous les deux. Non? Si vous vous changez d'avis, vous pouvez venir. Hein. comment s'est monté ce projet? Vous avez mis quoi sur le papier à l'origine? Parce que vous vouliez une petite boulangerie, une grosse boulangerie. Vous aviez envie de faire du pain, des spécialités, de la pâtisserie, enfin voilà.
Alors, le concept principal de ma boulangerie, c'est du 100% levain, tout fabriqué sur place. Donc vraiment de A à Z, il n'y a pas de produits transformés chez nous. On propose de la boulangerie, de la pâtisserie et du snacking. Ça reste une petite boulangerie de quartier, ça c'était quelque chose d'essentiel pour moi. Et surtout d'avoir une petite équipe qui soit fidèle et qui se plaise là où on travaille. C'est quelque chose de super important.
Vous avez une équipe de combien de personnes?
Là, on est 10.
Ah oui, déjà?
Ouais. Mais ça va vite hein, quand on fait tout main.
Oui, non, mais j'imagine bien. Mais déjà, faire travailler 10 personnes, c'est quand même très, très honorable. Mariana Rego-Lopez, donc graine de sens. Alors, vous... Idem, hein, même exercice, votre parcours, d'où venez-vous et comment en êtes-vous arrivé là?
Alors moi, j'ai un parcours un petit peu plus intégré dans la filière. Mon papa était meunier, mon mari est boulanger, voilà. Et en fait, j'ai fait l'école de meunerie, l'école de boulangerie, et après j'ai fait une école de commerce. Et j'ai travaillé 10 ans pour organiser des salons dans la filière. Et avec ma cofondatrice, quand j'ai eu mon premier enfant, on a décidé de se lancer pour accompagner les boulangers parce qu'on trouvait qu'il y avait un déficit au niveau des artisans pour les aider à communiquer sur leur valeur ajoutée. Voilà, donc c'est parti pendant le Covid avec une petite newsletter sur les expressions du pain, quelque chose vraiment d'anodin qu'on avait lancé autour de notre réseau. Et au fur et à mesure, on a créé un compte Instagram pour donner des astuces pour pouvoir communiquer. Aux boulangers. Et voilà, donc on est resté vraiment dans la filière. Caroline, qui est là, qui est mon associée, elle a un parcours aussi marketing chez des ingrédientistes en boulangerie et en meunerie. Voilà, donc on connaissait déjà bien la filière et le réseau. Et ça a été un grand plus parce qu'on maîtrise le métier et on comprend la complexité aujourd'hui de la boulangerie pour communiquer. Et ça, c'est essentiel pour les aider.
L'artisan voilà. Boulanger ressent-il le besoin de communiquer?
Oui, en fait, comme le dit très bien Amélia, il y a eu 2 effets dans la boulangerie qu'on a beaucoup ressentis sur ces dernières années. Il y a ce que j'appelle la boulangerie traditionnelle, des gens qui viennent de père en fils ou de famille, et des gens qui ont cette volonté de se reconvertir. Et qui ont un parcours diversifiées et donc des attentes différentes. Et en fait, on a aujourd'hui des clients de ces deux typologies et qui sont très complémentaires et très intéressantes parce que des personnes qui ont fait de la finance comme vous vont avoir un regard où il faut aller vraiment vers le consommateur. Un boulanger traditionnel va plutôt regarder un autre confrère comment il va travailler. Et en fait, les deux sont très complémentaires, mais l'intérêt, c'est toujours d'amener sa différenciation, son nom par son nom. Il y a des gens qui donnent leur nom à leur boulangerie, d'autres qui vont trouver un nom de marque en fonction. Et cette différenciation doit se transposer dans le commerce de proximité, puisque la boulangerie, c'est vraiment le cœur du village. Enfin, c'est ce que je dis. C'est souvent le premier commerce qu'on a aujourd'hui pour lequel on va redonner du sens. Et ça nourrit les gens. Et en fait, les gens ont besoin de cette proximité. Et peu importe, en fait, le public. Et je pense que le fait d'avoir la petite boulangerie, comme vous dites, a vraiment du sens. Et nous, on travaille vraiment avec cette typologie de boulanger, en fait.
Vous avez tout type de profil, à savoir... alors, vous venez de l'expliquer, mais quand j'entends tout type de profil, ça veut dire tous âges, en fait. Vous avez de jeunes boulangers, donc traditionnels, et aussi, je dirais, les cinquantenaires. Parce que moi, ce qui m'intéresse quelque part plus, je vais être direct, ce à quoi je pense, et c'était un peu le sens de ma première question, je me dis toujours qu'un boulanger installé depuis longtemps n'a pas forcément ce lien comme l'ont les plus jeunes générations, avec les réseaux, et ne voit pas totalement l'intérêt, quand il est installé depuis 20 ans ou 30 ans, de se dire, tiens, à quoi bon mettre une baguette en photo sur Instagram ou un autre réseau ? Voilà, c'est...
Alors, oui et non, on a tendance à dire, parce qu'on est jeune, on maîtrise, et en fait, c'est une question d'appétence. Il y a, en fait, des gens qui ont un certain âge, qui ont une appétence, une envie de comprendre, qui sont observateurs, qui voient leurs enfants à table et qui voient qu'en fait, aujourd'hui, quand on se balade, le téléphone, c'est quelque chose qu'on a au quotidien. Et transposer un petit peu son image, cette discipline dans du numérique, puisqu'aujourd'hui, c'est important. Et donc, ils se posent des questions. La seule chose, c'est qu'ils ne savent pas toujours comment faire et par quoi commencer. C'est un peu le jeu de l'entrepreneuriat ou d'un métier, par où on commence. Et en fait, on va se faire guider par des personnes en qui on a confiance, poser des questions. Et on a, moi j'ai des personnes qui ont une cinquantaine d'années et comme j'ai des jeunes couples et le niveau n'est pas du tout le même en fait. Et c'est très très intéressant, c'est très formateur.
Ouais, parce que j'imagine que les attentes ne sont pas du tout les mêmes. Qu'est-ce qu'on vous demande au départ quand on fait appel à vous ? Que vous demandent les gens ?
Alors on a en fait sur le développement aujourd'hui commercial ou l'image, ça peut être à différents, il y a 5 piliers importants. Ça peut être l'image, ça peut être la prospection, on va aller chercher de la chalandise, on veut voilà, se développer. Ça peut être le besoin de recrutement, on a besoin d'une marque forte pour recruter, donc avoir une identité. Ça peut être aussi l'ordonnancement, je veux numériser pour accélérer, pour donner de la vente en ligne, pour pouvoir vendre mes bûches à Noël plus facilement, éviter la queue, ce genre de choses. Et la dernière, ça va être vraiment, je dirais, l'aspect communication générale, parce qu'on a un besoin de reconnaissance aussi dans notre métier. Et la reconnaissance, elle passe par le geste, c'est une intelligence des mains, la boulangerie. Cette intelligence des mains, beaucoup de consommateurs ne la voient pas. Il y a une espèce de barrière entre le magasin et le fournil. Et notre travail, en fait, c'est d'expliquer ce qui se passe derrière, pas ce qui se passe devant. Et en vente, ça aide beaucoup parce que derrière, elles comprennent aussi. Parce que souvent, il y a aussi une complexité entre la vente et la pratique. C'est que moi, j'ai vu où à 18h30, des vendeuses dire « il n'y a pas de baguette encore sortie ». En fait, je ne les fais pas en 10 minutes. Vous voyez, c'est des choses qui sont... Et c'est ces petites choses-là. Et le consommateur n'a pas toujours aussi cette réflexe. Il appelle et dit « j'ai une pièce montée dans 2 heures ». Non. Donc en fait, on accompagne en expliquant ce qui se passe vraiment dans un fournil et on casse cette barrière. Voilà. Et ça, c'est très formateur pour tout le monde.
Amélia Bell, vous êtes, je dirais, le premier pied dans la communication que vous avez fait par rapport à votre projet, c'est le crowdfunding, parce que vous avez fait appel à ce système de financement pardon, pour monter, en tout cas pour vous aider à monter le projet.
Oui, c'est ça. Donc, la plupart des gens ne savent pas l'investissement que c'est d'ouvrir une boulangerie, financier surtout, et surtout avec des difficultés actuellement avec les banques. Donc, en fait, il faut forcément se diversifier pour trouver des fonds, et le crowdfunding, ça fait partie d'une possibilité. Et il y a aussi cet aspect de communication grâce au crowdfunding qui est une première entrée en fait dans la communication de notre boulangerie. Donc c'est déjà de tester son concept, de tester ses produits, son concept, sa marque aussi, et de voir si ça va commencer à plaire à des gens et de pouvoir capter les premiers clients chez nous.
Et vous me disiez, lorsqu'on s'est parlé pour préparer votre venue, que vous avez choisi un crowdfunding court, hein, sur une période la plus courte, parce que ça vous semblait être le plus pertinent possible.
Oui, je pense qu'il faut toujours des laps de temps assez courts, parce que les gens peuvent se dire « Ah, j'investirai ou je participerai d'ici quelques temps, mais... » Ah pardon. Voilà. Mais on veut un don immédiat, donc en fait il faut qu'il y ait un laps de temps très court. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez offert en contrepartie? Vous avez offert du pain, les gens viennent après
Il y a plein de contreparties différentes parce que forcément il y a des budgets différents pour les gens qui participent. Donc ça a commencé à 10 euros avec un sac à pain ou quelque chose comme ça. Et puis en fait après on va proposer des produits, ce qui permet aussi à ses clients qui vont venir de revenir s'ils ont apprécié. Donc ça peut être des petits déjeuners pour des brunchs. Et après on avait fait aussi des ateliers pour apprendre à faire la viennoiserie, apprendre à faire le pain. Ce qui permet aussi un peu de faire rentrer les gens dans le fournil, en fait, pour qu'ils puissent découvrir comment les boulangers travaillent.
Alors, est-ce que vous avez ouvert, soit vraiment à l'ouverture physique de la boutique ou préalablement un compte Instagram, TikTok, je ne sais quel réseau vous auriez pu choisir?
Oui, on a ouvert un Instagram. Je pense que c'est quelque chose où il y a encore plusieurs générations qui sont dedans. Ouais. TikTok, moi, je suis déjà trop vieille, je pense. Mais Instagram, il y a encore les jeunes, les moins jeunes. Donc, je pense que c'est une bonne base, Instagram. Ça permet de mettre des photos. Donc, en plus, on peut contrôler aussi l'image qu'on a envie d'émettre vis-à-vis de nos produits et de pouvoir communiquer tous les jours ou en tout cas un certain nombre de fois par semaine.
Quelle stratégie, pour quelle stratégie avez-vous opté?
Alors, nous, on a une stratégie en communication qui est... Je ne sais pas si on peut dire assez limité, mais nous, on s'était vraiment concentré sur la relation client qu'on avait dans notre quartier. On voulait, la première stratégie, c'était s'implanter dans le quartier. Et la deuxième stratégie, c'était un peu plus se développer sur Instagram. Et donc, c'est des photos de nos produits, mais aussi de montrer comment ça se passe dans le fournil, des photos de notre matériel. Parce qu'en fait, les gens adorent en fait voir ce qui se passe. On les fait souvent rentrer dans le fournil, ils se disent « Ah, mais c'est si grand, on ne s'attendait pas à voir ça, toutes ces machines, vous êtes 10 derrière, c'est incroyable. » Et donc, mais on communique donc vraiment, un poste par semaine. Voilà.
Et qui fait les postes? C'est vous?
C'est nous. Pour le coup, là, on n'a pas fait appel à de community managers ou de personnes qui le contrôlent. On aime bien pouvoir... échanger.
Ouais, c'est parti. Ouais, c'est l'implication que vous avez. Ça vous fait plaisir de le faire. Et...
Oh, exactement. Ouais. Puis on se sent proche de nos clients, en fait, surtout.
Qu'est-ce qu'on peut donner, Mariana Rigo-Lopez, comme conseil? Il y a une régularité installée? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire des reels, des stories? Est-ce que la photo a encore le vent en poupe? On se le demande.
Alors, tout est un petit peu compliqué aujourd'hui parce qu'il y a énormément de réseaux sociaux. Il y a Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Twitch, il y en a beaucoup. Le support le plus important reste pour la boulangerie et pour la food en général, je pense, Facebook et Instagram, de par les usages et de par la masse. Et après, oui, il y a un algorithme. L'algorithme, c'est un robot. Et il faut jouer avec. Et en fait, nous, notre travail, il n'est pas, comme vous le dites très bien, Amélia, c'est pas de prendre le compte et de le gérer à distance. Il faut toujours que ça soit intégré dans la boulangerie parce qu'il y a le quotidien. Et on est sur un instantané. Instagram, c'est de l'instantané. C'est quelque chose qui passe. Et les stories sont très importantes parce qu'elles vont animer la communauté qui est présente, c'est-à-dire les abonnés. Et les publications photos ou vidéos vont amener des nouveaux abonnés. Et en fait, ça va se passer comme si vous aviez un book, en fait, vous présentez. Et on le voit énormément aujourd'hui. Quand moi, on me parle d'une boulangerie, le premier réflexe, c'est Google et c'est Instagram. Et en fait, c'est l'image que je vais voir. Et je vais regarder deux choses. si je vois les gens, parce que pour moi, c'est un commerce de proximité, et il faut qu'on voit les gens, il faut qu'on voit des humains, parce que c'est un métier manuel, et qu'on voit les produits. Et là, en fait, je vais avoir une marque employeur qui va se dessiner, une qualité, vous, j'ai regardé, donc vous avez un très beau compte, on sent que voilà, c'est animé, que c'est vivant, c'est tenu, et continuez à le faire, parce que c'est vraiment important, et je pense que quand on arrive, moi, j'ai déménagé de Paris, je suis allée en campagne, la première chose que j'ai faite, c'est m'abonner à la page du village pour voir quels étaient les commerces présents, quelles étaient les animations. Et aujourd'hui, et j'ai fait Facebook parce qu'on est en ruralité. Instagram, c'est beaucoup en côté urbain. Et après, il y a cet effet de glissement, en effet d'âge. Moi, je suis un peu la double génération. J'ai ouvert mon compte Facebook à 12 ans. Donc voilà, j'en ai 37, pour tout vous dire. Et mon premier compte Instagram, j'avais déjà 25 ans. Vous voyez ? Mais aujourd'hui, j'utilise beaucoup plus Instagram. C'est beaucoup plus féminin. Les hommes sont beaucoup plus sur Facebook. Après, voilà, il y a des choses à savoir.
C'est pas vrai.
Alors, voilà. Les boulangers, notamment, en pratique. Voilà, ceux qui sont au fournil vont utiliser Facebook parce qu'il y a d'autres algorithmes.
On a l'impression que Facebook a vieilli. C'est-à-dire que la génération Facebook est quand même, je dirais, plutôt au-delà de 40, voire 50, et qu'Instagram est vraiment en dessous de 40, ou en tout cas à la quarantaine.
Alors, Facebook, Instagram, WhatsApp, c'est le même patron. C'est Mark Zuckerberg. Donc, en gros, il a compris. Oui, vous avez un glissement qui est plutôt 40 ans sur Facebook, qui est lié aussi au nombre de gens qui vont être dessus. C'est-à-dire que vous allez sur un réseau parce qu'il y a une masse. Moi, dans mon village, j'utilise beaucoup plus Facebook qu'Instagram parce que j'ai moins de contenu, en fait. C'est par appétence. Dès que je rentre à Paris, parce que j'ai beaucoup plus de contenu. Et visuellement, la plateforme est plus pratique. Je trouve qu'elle est ergonomiquement... j'ai plus de facilité à regarder et à la pratiquer. Il y a vraiment un jeu de pratique. Et ça, c'est important de le comprendre quand on a un commerce, c'est à qui on s'adresse. On parle souvent des personnes âgées. Les personnes âgées sont énormément sur Facebook et celles qui vont acheter des gâteaux, celles qui vont venir le week-end, celles qui vont parler au club des mamies et elles vont vous apporter une achalandise. Voilà, même si elle vient chercher la demi-baguette et elle vous parle pendant 10 minutes à la boutique et vous, ça vous ennuie parce que derrière vous avez autre chose, c'est un peu l'image des fois, elle est très très importante et elle va avoir une intention. Quand on a ouvert notre boutique en campagne, on s'est rendu compte que les personnes âgées avaient une grosse influence. Enfin, les personnes d'un âge avancé, mature, avaient une grande importance plus que les plus jeunes. Par contre, les plus jeunes vont dire à leurs parents, tiens, il y a un nouveau commerce qui vient d'arriver. Ils vont le voir parce que j'avais ouvert un compte Instagram. Vous voyez, c'est un peu de la machine learning. Il faut regarder un peu et étudier. Donc oui, l'algorithme est important.
L'algorithme, pour qu'il fonctionne au mieux, c'est au minima un poste quotidien, c'est hebdomadaire, c'est... Est-ce qu'il y a une récurrence ou justement, oui, c'est la récurrence qui compte ?
Alors la vidéo, c'est quelque chose qui bouge. Donc par affinité, on va regarder, on va s'arrêter, beaucoup plus qu'une photo. Une photo, il faut qu'elle ait une intention, il faut qu'il y ait un sentiment qui se dégage. Dès que vous avez une photo d'homme, de femme, d'enfant, de personne... vous allez vous arrêter parce que ça vous rappelle à votre... c'est de l'anthropologie, c'est vraiment quelque chose de reptilien. Donc vous avez beaucoup plus de likes. Vous pouvez regarder sur un compte Instagram, faire un test, vous verrez que les photos avec l'humain marchent beaucoup mieux qu'une photo de produit, même si elle est très belle, photoshopée, faite par un pro, etc. Une vidéo va bouger. Donc en fonction, et puis vous allez avoir de la musique, vous allez amener d'autres facteurs qui sont vraiment du sens, du cognitif. Et après... en fonction, la question, pardon, c'était...
c'était la récurrence du voilà. Poste, mais effectivement, vous vous développez, c'est parfait, sur le contenu.
Vous allez avoir, en fait, l'algorithme va favoriser votre travail. Il va vous mettre en avant si vous êtes régulier. Et il va vous bannir si vous n'êtes pas régulier. Donc, en fait, vaut mieux faire un poste par semaine et s'y tenir que 12 un jour et 0 le lendemain, en fait. C'est, voilà, des fois, on a des clients qui veulent démarrer très vite... on leur dit, il faut mieux être dans la régularité et maintenir avec des objectifs qui sont tenables parce que vous allez pouvoir justement vous développer, vous faire voir. Et l'algorithme va faire notamment en sorte sur les stories, vous avez des petits ronds sur la façade d'Instagram. Si vous postez régulièrement en story, vous allez arriver dans les premiers sur les 150 personnes que vous suivez. Si vous ne postez pas régulièrement en story, vous allez passer dans les derniers. Et en fait, par appétence, on va slider 3-4 fois. puis après, on va passer, puisqu'on a 10 minutes, un quart d'heure le soir, et on veut regarder un peu ce qui se passe. Voilà. Donc, il faut vraiment... C'est un petit exercice où il faut se poser ces questions-là.
Est-ce que les conseils que vous donnez, les recommandations que vous faites, sont suivis ? Oui.
Oui.
Quand on fait appel à vous, il y a une intention forte, donc on s'y tient ?
Alors, moi, je travaille avec mes clients où ils ont toujours 100% de la gestion. Et en fait, je viens en appui. Quand je vois qu'ils n'ont pas le temps, parce que souvent, on dit on a la tête dans le pétrin, il y a plein d'expressions hein, autour de la boulangerie que j'aime beaucoup. Ils sont pris, ils ont plein de choses à gérer, ils sont dans les périodes de fête, voilà, l'épiphanie, il y a plein de complexités. Donc nous, on vient en appui, on donne cette régularité, cette visibilité. C'est un complément. On n'est jamais en position où on garde. Et ça, c'est important. Et eux vont amener toutes les stories, le quotidien où moi, je ne suis pas là. Moi, je vais amener vraiment le contenu, l'identité de marque structurée, parce qu'on est vraiment dans l'ordre du marketing et apporter quelque chose pour développer de la chalandise. Et derrière, eux vont structurer et on va les accompagner et les aider à se mettre en avant. Souvent, ils sont un peu timides, ils n'osent pas, les équipes. Et en fait, après, c'est super cool parce que ça devient presque un jeu et tout le monde fonctionne et c'est vraiment une machine qui tourne, quoi.
Amélia Belle, vous prenez ça comme un jeu ?
Oui, je prends ça pour, comme un jeu et je pense que c'est vraiment très important de le faire. Enfin, ça me fait penser où nous, par exemple, dans notre boutique, on a un mur avec toutes les photos de toute notre équipe et les clients adorent ça. Ils vont dire « Ah, mais lui, c'est Samuel, qu'est-ce qu'il fait ?» Ou, enfin, et donc, ce qui fait que ça amène vraiment une relation avec sa clientèle. Et je pense que dans un business comme la boulangerie, qui est un commerce de proximité, les gens reviennent grâce à ça, en fait.
Et qu'est-ce que vous choisissez de montrer ? Qu'est-ce que vous photographiez ? Est-ce que vous parlez ? Est-ce que vous faites des...
Si je parle ?
Oui.
Non,
non. Vous adressez à vos followers ?
Non, pas du tout. Pour le coup, ça on ne fait pas. On fait beaucoup de photos, nous. Et on va faire des petites vidéos où on va montrer, par exemple, là, avec l'épiphanie, on a fait une vidéo pour montrer comment on faisait une galette, parce que souvent, les gens...
Vous avez montré où vous cachiez la fève.
Exactement, c'est ça. Surtout pas au milieu. Et ça permet de voir le travail que c'est aussi, de faire la pâte feuilletée, de faire la frangipane. Et ça, les gens adorent. Et je pense que c'est exactement ça. Une vidéo, ça marche beaucoup mieux qu'une photo parce que c'est attractif et les gens adorent regarder.
Vous avez des commentaires ?
On a plein de commentaires, ouais. Ouais, ouais. Toujours gentils.
Ouais, j'imagine, ouais. C'est vraiment surprenant. Mais vous avez en plus... Il y a une douceur dans la boulangerie, la pâtisserie. Enfin, c'est tout ça, quand même. C'est plein de douceur. On vient pour se faire du bien dans une boulangerie. Donc, c'est vrai qu'on a souvent envie de dire « Ah, c'est génial, ça brille, c'est appétissant, exactement. J'ai envie d'en acheter une. » J'imagine que c'est un peu ça que vous avez.
Ouais, c'est exactement ça. Ça donne envie. Ouais. On vient la semaine prochaine.
Est-ce qu'on doit chercher du commentaire ? Est-ce qu'on doit chercher du like ?
Oui, il faut chercher de l'engagement. Ouais. En fait, c'est comme l'histoire d'un musée. Vous avez les musées qui sont figés, des musées morts et des musées vivants. En fait, il faut interagir avec votre communauté et les stories le font beaucoup. Sur, par exemple, nous, ce qu'on fait quand il y a une pâtisserie de saison qui sort, on lui cherche un nom, on demande aux gens de leur donner un nom. Et en fait, on fait un petit challenge en disant « Bah tiens, tarte à l'abricot, vous l'appelleriez comment ?» Et on recueille ça, on les propose après.
Bargo.
Voilà. Et puis, en fait, on met trois noms qui plaisent soit au pâtissier, enfin, au créateur. Et en fait, après, c'est lui qui dit, bah tiens, je donne ça. Et en fait, on fait gagner cette pâtisserie à la personne qui a proposé. Et en fait, il y a tout un engagement et toute une réachalandise, un taux de rebond qui revient comme ça. Il faut vraiment considérer que le consommateur...
Il faut engager l'autre.
Voilà. Et aujourd'hui, les marques le font beaucoup dans d'autres. C'est-à-dire que poser la question de comment on veut construire sa chemise, par exemple, sur Asphalt, est une marque que je suis, que j'aime bien, est très intéressant et pertinente. Et ils comprennent le process de mise en pratique. Sur la vidéo de la galette, j'ai vu... Ce qui est super, c'est qu'on voit et la qualité de votre frangipane, et le feuilletage, et les gens qui la font. Et en fait, on va jusqu'au bout de la vidéo. Et voilà. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de dire bah, comment vous l'avez trouvé. Est-ce que vous êtes plutôt frangipane ou...
Et ça marche toujours, voilà. Ça c'est la question qui m'agace le plus. Et vous aimez la frangipane aussi ?
Non, mais posez la question si elle est plutôt complète ou si plutôt amande blanche, choses, voilà. C'est ce
moi,
genre.
Je passe directement à l'autre, là. Je réponds pas à la question, moi. Je suis un mauvais client, pardon.
Vous abusez trop d'Instagram.
C'est ça. En tout cas, vous allez être obligé de l'embaucher, hein, parce que je ne sais pas si elle a bossé le sujet. Hein. Ouais. Elle connaît parfaitement l'entreprise maintenant.
C'est ça, c'est très clair.
Va falloir développer un petit budget communication, vous êtes obligé. Hein. Non, mais en tout cas, on voit ce qui est intéressant, c'est que ça, je pense que c'est peut-être comme ça qu'il faut le voir, que ce soit un jeu, un plaisir et une envie de partager un tant soit peu son quotidien pour impliquer. C'est vrai que la relation, alors je pense que le commerce direct de proximité, il a cette chance aujourd'hui encore, vous parlez à des gens. Mais n'empêche, le petit plus du réseau, la vidéo, ça entretient la flamme. Hein, je crois que c'est ça. Hein, c'est, finalement, c'est un peu une vie de couple, quoi. Il faut entretenir la flamme en permanence.
Bah, de toute manière, je pense que si la communication elle n'est pas faite comme ça, les gens ils le savent tout de suite en fait, que je sais pas si on peut dire c'est faux ou c'est trop guindé, trop beau. Les gens le ressentent tout de suite en fait. Donc je pense que les comptes Instagram qui fonctionnent le mieux, c'est les comptes où en fait on sent que c'est vrai en fait. On sent que voilà, le boulanger il aime ce qu'il fait. Les choix de photos, c'est parce qu'on est fiers de nos produits. Et je pense que, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais
il faut garder l'authenticité. C'est vraiment la première valeur. C'est vous qui faites votre communication. C'est pas des codes. On apprend des choses à l'école, c'est génial, mais il faut que vos valeurs se transposent. Et c'est les valeurs qui sont du départ de l'équipe fondatrice. Voilà.
C'est ce que j'appelle la sincérité de propos. Quand on est sincère dans la démarche, ça fonctionne. On va proposer aux personnes présentes de vous poser des questions. Est-ce que vous aurez des questions à poser, soit à Méliabel, soit à Mariana Rigo-Lopez? Il vous suffit de lever la main si vous avez une question à poser. Et je me ferai un plaisir de me déplacer vers vous. Pas de questions? On vous a tout dit, vous avez tout appris. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous invite à applaudir eh bien, nos deux participantes, Amélia Bell, donc boulangerie Mimi à Paris dans le 11e arrondissement, et Mariana Rigo-Lopez, co-dirigeante de Graines de Sens. Et merci également à la vidéaste qui nous aura filmé sur notre meilleur profil
merci.
Durant cet échange. Merci beaucoup. Belle soirée à vous toutes et à vous tous.